Bonjour, je m'appelle Jean Rottner et j'ai eu plusieurs vies. Après ma période des apprentissages, je suis devenu médecin, patron d'un service d'urgence et d'un SAMU. J'étais maire et président de région. Aujourd'hui, je poursuis ma quatrième vie dans le privé en m'offrant une autre manière de vivre. À travers ce podcast, j'ai simplement souhaité vous amener à être curieux, parfois troublé, à l'écoute de celles et ceux qui, célèbres ou non, vivent intensément leur engagement au milieu de nous tous. Je suis persuadé qu'il y a une différence entre croiser quelqu'un et le rencontrer. La rencontre est vitale. Et celles et ceux que j'ai vraiment rencontrés étaient rares, précieux. Ils m'ont marqué, inspiré, ouvert au monde, et j'ai donc décidé de vous les faire découvrir. L'important est donc là, parmi ces vraies rencontres, soyez les bienvenus.
Jean Rottner, les vraies rencontres, l'essentiel est là.
Bienvenue dans les vraies rencontres, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un invité exceptionnel, une personnalité dynamique et inspirante, Dominique Restineau. Préparez-vous à plonger au cœur de son parcours passionnant et de ses visions uniques du monde de l'entreprise. Dominique Restineau, entrepreneur chevronné et visionnaire, est un nom qui ne résonne peut-être pas pour tout le monde. C'est un autodidacte, un de plus d'ailleurs dans ce podcast. Fort d'une carrière riche en succès et en réalisations, il préside aujourd'hui la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Au fil des décennies, il a su se forger une réputation solide en tant que leader, mais aussi en tant que mentor dévoué pour les jeunes entrepreneurs. Son expérience diversifiée, ses compétences lui confèrent une expertise transversale assez unique dans notre pays. Dans ce podcast, nous aurons l'occasion de découvrir les moments décisifs qui ont marqué sa carrière, les défis qu'il a dû surmonter ainsi que les leçons précieuses qu'il a apprises tout au long de son parcours entrepreneurial. Nous explorerons également sa vision de l'avenir, des affaires et les tendances qui façonneront notre économie dans les années à venir. Préparez-vous finalement à être inspiré et motivé. Dominique nous dévoilera les clés de sa réussite et les conseils essentiels pour tous ceux qui aspirent à créer et développer leurs propres entreprises. Alors, installez-vous tout simplement, confortablement, préparez-vous à un voyage passionnant dans l'univers de l'entrepreneuriat en compagnie de notre invité, Dominique Restineau. Je suis impatient de découvrir les trésors de sagesse qu'il a à partager avec nous et restez à l'écoute. Bonjour Dominique Restineau.
Bonjour Jean Rottner.
Comment ça va?
Je vais bien et je suis ravi de vous accueillir. Je ne sais pas si on se voit, si on se tutoie.
On va se tutoyer. Eh ben, on va se tutoyer plaisir. Parce qu'on se connaît depuis bien longtemps. C'est exactement. Un peu la règle de voilà. Ce podcast. Dominique, dans la salle d'attente, il y a un journal qui s'appelle Eco Réseau Business qui dévoile les 100 personnalités qui ont marqué la décennie. Et tu en fais partie. À côté de Tony Estanguet, qu'on ne présente plus, à côté de Catherine McGregor, qui est la patronne d'Engie, à côté de Daniel Kretinsky, qui est le milliardaire tchèque, qui investit de manière multiple dans notre pays, et à côté de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, à côté de Jeff Bezos, patron d'Amazon. Qu'est-ce que ça fait, quand on est président de la CCI, d'être finalement parmi ces 100 personnalités qui ont marqué la décennie?
Alors, je ne m'attendais pas à cette question. Je suis très touché. Ça doit flatter mon ego, évidemment. Je vais être totalement transparent. C'est le but du jeu de notre échange. En tout cas, c'est comme ça que je vis. Alors là, tu viens de citer des personnalités illustres, évidemment. Et donc, il y en a d'autres qui sont comme moi. Peu connu ou pas connu, mais qui réalise des choses. Qu'est-ce que ça fait? Ça reconnaît peut-être à travers ce journal que j'aime beaucoup. En plus, alors Eco-Réseau, parce que j'aime beaucoup le président de le fondateur de ce magazine. C'est un jeune entrepreneur pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et je ne sais pas quoi répondre en réalité. Qu'est-ce que ça me fait? Bon, ça m'a touché. Je me suis dit, il y en a quand même qui ont vu quelque chose. Voilà.
Alors, ça me permet d'engager notre conversation finalement sur ton histoire personnelle. J'ai dit dans mon introduction que tu n'étais pas forcément la personnalité économique la plus connue, mais tu pèses, tu as une action concrète au quotidien. Nous aurons l'occasion de revenir sur le rôle de la CCI, sur ton rôle à la tête de cette institution. Peut-être pour que nos auditrices et nos auditeurs puissent mieux te connaître, est-ce que, en quelques mots, tu peux nous raconter ta vie, ton parcours ? Je sais qu'il est riche, qu'il vient de province, qu'il est fait de diverses cultures, et je crois que c'est ça qui est intéressant et qu'on cherche aussi à bien connaître.
Alors oui, comme je dis assez fréquemment, au moins une fois par semaine, je ne suis pas parisien, donc je suis né dans une petite ville. Je suis né à Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Villers-Cotterêts dans l'Aisne, il y a les ordonnances, l'édit de Villers-Cotterêts, bien sûr, en 1530, je ne sais plus exactement. Et il y aura, je ne sais pas quand sortira cet échange entre nous, mais la semaine prochaine, il y aura l'inauguration de la cité de la langue française et de la francophonie à Villers-Cotterêts, dans ce fameux château qui a été totalement rénové, qui était une promesse du candidat Emmanuel Macron. Il a tenu promesse, hein, je tiens à le dire quand même, un projet aussi important que celui de la, en termes financiers déjà, que celui de Notre-Dame, pour en faire un emblème, bien sûr, de la francophonie, de la langue française, de cette très belle langue, dans cette petite ville d'une dizaine de milliers d'habitants. Alors, je viens de là.
Naissance dans l'Aisne.
Naissance dans l'Aisne, que j'ai quitté à l'âge de 17 ans. Tu as utilisé le terme d'autodidacte. Effectivement, j'ai quitté cette petite ville qui est à 100 km de Paris, mais qui parfois peut sembler être au bout du bout du bout du bout du monde. Avec, à l'époque, à l'âge de 17 ans, en tout et pour tout, 1000 francs. C'était dans...
Et sans le bac.
Sans le bac, j'étais totalement autodidacte. Et donc j'ai quitté cette petite ville pour venir tenter ma chance, non pas à New York, mais à Paris. C'était mon rêve parisien, mon rêve américain à moi, mais à Paris. Voilà, et j'avais 17 ans.
Et ta famille, ses origines, alors, ses influences ?
Mes origines, je suis né donc dans cette petite ville. Mes parents sont d'origine italienne, enfin sont italiens les deux. Quand je dis l'Italie, c'est vraiment l'Italie, c'est-à-dire qu'ils viennent des Pouilles. Alors tout le monde me dit aujourd'hui et depuis quelques années, ah, quel bel endroit. Oui, sauf que l'époque où mes parents y vivaient, c'était l'un des endroits où ils mouraient de faim. Et donc il fallait qu'ils émigrent. Et après avoir mon père, par exemple, travaillé dans les mines en Belgique pendant 5 ans, retour. Dans le enfin, fond des Pouilles, dans leur village, vient un petit peu avant en éclaireur en France et arrive à Villers-Cotterêts. Il aurait pu aller à New York peut-être, mais il est arrivé à Villers-Cotterêts, dans cette petite ville où il y a fait bon nombre de métiers, famille très très pauvre. Voilà, mais j'ai vécu... je vois encore, quand je te parle, je vois encore la maison que mon père a construite dans un endroit, dans Villers-Cotterêts, dans laquelle je suis né, dans cette maison directement, puisque à l'époque c'était les sages-femmes, vu mon âge. Voilà, et c'est toujours avec beaucoup d'émotion. Et lundi, j'ai le privilège, la chance d'être invité pour l'inauguration de la Cité de la langue française par le président de la République. Et très sincèrement, c'est énorme pour moi, voilà. Et j'y ai ma famille, mes parents y sont enterrés. J'y vais peu. Je vais voir ma sœur, ses enfants. C'est beaucoup d'émotion pour moi, voilà.
L'émotion, c'est aussi l'Italie pour toi quelque part. Est-ce que tu y retournes ou est-ce que
j'adore l'Italie.
Tu adores l'Italie. Je vais te citer une phrase que j'ai retenue, qui est celle de Jean-Baptiste Andrea dans son dernier ouvrage Veiller sur elle, qui dit : je viens d'une terre où la beauté est toujours aux abois, qu'elle s'endorme 5 minutes, la laideur l'égorgera sans pitié. Et il parle de cette beauté de l'Italie, de cette qualité. Finalement, c'est un pays comme la France, dans lequel la Renaissance a marqué le beau, l'excellence. Ta vie française, tes origines italiennes, eh bien pour toi, c'est le début finalement de cette recherche, un peu de cette vie de bohème, à 17 ans, qui te pousse à se dire, eh bien je vais tenter ma chance. Là aussi, peut-être dans le domaine artistique.
Alors, Je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, je ne devais pas en avoir conscience. J'adore l'Italie et j'adore la France. Et je trouve que c'est deux très, très beaux pays qui se ressemblent énormément. Avec une petite différence, c'est que les Italiens chantent un petit peu plus et les Français ronchonnent parfois un peu plus. Voilà.
Tu chantes sous la douche ?
Ça peut m'arriver de chanter sous la douche. En tout cas, j'adore le karaoké, j'adore chanter. Enfin, j'adore faire les, chanter à faire des karaokés avec des amis. J'adore ça. Voilà. Et certaines personnes le savent. Et même parfois dans les endroits où on ne devrait pas faire ça, ça m'amuse complètement. Et c'est le naturel. Et j'adore ce naturel. Voilà.
Et donc, tu arrives à Paris ?
J'arrive à Paris. J'ai 17 ans, un peu plus de 17 ans. Et j'y viens. Pourquoi les planches ? Parce que quand j'étais au lycée, j'étais...
Donc, tu fais le choix du théâtre, c'est ça ?
Alors, c'est parce que en clair, j'étais en première et j'étais dans une troupe de théâtre où nous avons répété, travaillé une pièce de théâtre que nous avons jouée à la Maison de la Culture, la MJC de Soissons, là où j'allais au lycée. Et nous avons réalisé une représentation à cet endroit. Il y avait 600 personnes. Et il est vrai qu'on m'a fortement encouragé à me dire mais il faut aller à Paris, il faut aller à Paris, il faut aller à Paris. Même, je n'oublierai jamais, mon prof d'histoire de 4e qui était venu de Reims, parce qu'il savait que je jouais dans cette pièce. Cette pièce était Classe Terminale d'Obaldia. Et je jouais avec les honneurs le premier rôle, le commandeur. Et donc, entre ça et ma vie sentimentale, j'ai décidé effectivement de quitter les premiers jours de ma rentrée en terminale.
Dominique, j'ai reçu déjà dans ce podcast deux personnes. Stéphane Manigold, que tu connais peut-être, qui est le patron du groupe Éclore,
oui.
À Paris, qui a 8 restaurants, et Gabriel Bran-Lopez, qui est québécois et qui a fondé Fusion Jeunesse au Québec et qui est présent en France. Ils ont la même histoire que toi, ils sont autodidactes. Ils ont fait le choix, dans leur jeunesse, leur adolescence, de monter sur les planches. Et finalement, après cette expérience, de se réorienter, de rentrer véritablement dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a quelque chose là, vraiment, le théâtre, l'expression corporelle, le texte, la littérature, qui influence à un moment donné et qui permet de favoriser cet esprit d'entreprise ?
Je ne sais pas pour eux. En ce qui me concerne, c'est davantage. Alors, en première, j'avais une prof de français qui m'a fait découvrir des textes. C'est elle qui m'a fait découvrir Lorenzaccio, par exemple. Et j'ai découvert ce plaisir du texte, de pouvoir jouer, en tout cas, cette sensibilité au texte. Et très sincèrement, c'était pas ma culture, puisque j'ai ma langue maternelle à l'origine. Très tôt, c'est le dialecte. C'est même pas l'italien, c'est le dialecte des Pouilles. Ma maman était... Alors, je ne vais pas vous faire causette, mais ma maman était orpheline à l'âge de 4 ans. À l'âge de 6 ans, elle travaillait dans les champs. Mon père, à 11 ans, était garçon éboueur.
C'est la rudesse de la vie.
Voilà. Ma maman, enfin, ne savait pas lire, ne savait pas écrire. Mon père a appris ça comme ça, mais pourtant, il a fait plein de métiers. Il a été entrepreneur, il a osé, il a tenté. Les planches, c'est s'exposer, c'est prendre des risques, c'est vivre plusieurs vies, je pense. C'est ne pas rester enfermé dans quelque chose. Je crois que c'est drôle parce que, et bien sûr c'est difficile parce que c'est toujours l'émotion quand on va puiser dans ces souvenirs là mais comment dirais-je, ce week-end j'ai fait un déjeuner d'amis d'enfance, de mes amis quand j'avais quelques années, 10 ans, 12 ans, 13 ans, il y en a que je n'avais pas vu depuis 40 ans. Nous avons eu l'impression à quelques-uns de... Il y en a un qui nous manquait. Alors, c'est un petit lien avec toi parce que c'est devenu un des grands professeurs en France autour de la douleur. Hervé Boisy, je le cite, voilà. C'est mon avis d'enfance. Là, il ne pouvait pas être là parce qu'il était de garde. C'est des choses que tu connais très, très bien. et c'est voilà, c'est, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire parce que c'est l'émotion. Où est-ce que j'en étais?
Tu partais de ta famille et des
oui.
planches et du rôle finalement d'avoir d'avoir plusieurs
oui, d'avoir plusieurs vies. Et on a vu bien sûr les parcours des uns et des autres et chacun avait son parcours, mais tout le temps on s'est retrouvé comme si c'était hier.
Vous aviez une référence, c'est ce que vous avez vécu dans votre jeunesse.
Mais bien sûr, mais je crois que c'est fondamentalement marquant. Je voulais parler de mon père. Voilà, c'était ça que je voulais dire, parce que mon père m'a transmis des valeurs. Ma mère aussi, mais mon père m'a transmis des valeurs. J'ai fait la différence entre ne fais pas ce que père dit, mais fais. Voilà, il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris à prendre ce recul. Je suis parti très, très tôt de chez mes parents, mais non pas avec, voilà, ils m'ont apporté tout l'amour qu'ils pouvaient apporter, qu'ils pouvaient offrir, et je leur en suis profondément reconnaissant. J'ai un de mes amis qui me disait qu'il n'y a pas longtemps, il pensait à moi, il pensait à mon père. Parce que malgré la vie, parce que ça les étonnait. Nous étions quelques-uns, le fils de l'industriel, le fils du docteur devenu maire de la ville, le fils du boucher, mon ami le plus proche qui était une famille simple, fils unique. Et on était un ou deux à ne pas partir avec les mêmes bases que les autres, mais des parcours étonnants, d'après eux, je dis bien d'après eux. Voilà, et c'est en réalité... Je crois que nous sommes forgés véritablement dans les premières années. C'est des choses qui restent. On s'en rend pas forcément compte. C'est ma conviction. Je peux me tromper, mais c'est ma conviction. Et c'était une manière de rendre hommage à mes parents, bien sûr. Et oser. Voilà. Et j'ai un de mes amis qui disait, ton père a toujours, on le voyait, il était toujours positif et constructif. Ça, il me l'a transmis, oui.
Merci en tout cas. De partager ce moment à la fois d'émotion et très personnel, Dominique. Et tu parlais du rôle des parents, tu es parti également du rôle des professeurs. J'aimerais citer Barbara Cassin, qui est une autrice également qu'on connaît, qui a écrit Le bonheur, sa dent douce à la mort, et qui dit « Pour s'en sortir quand on est élève ou étudiant, il faut avoir un jour un bon professeur, en avoir eu au moins un dans sa vie. Tu as eu ton père et ses valeurs. Est-ce que tu as eu un bon professeur qui t'a emmené, qui t'a tiré, qui t'a aidé ?
J'ai eu cette femme, quand j'étais en première.
Tu connais son nom encore ?
Je le cherche. Elle me faisait penser à Annie Girardot dans ce film mythique, quand Annie Girardot est professeur. Une femme engagée, une femme qui aimait son métier de prof, d'accompagner l'autre plus jeune, voilà. Et oui, je m'en rappelle très bien, je ne sais plus si elle est de ce monde, mais ça m'arrive souvent de penser à elle, voilà. Mais je pense que secrètement, je devais être très amoureux, voilà. Ça n'est pas c'est pas exclusif.
Finalement, après tout ce que tu viens d'exposer, d'où as-tu le sentiment de venir ?
D'où je viens, je pense être un citoyen du monde. Quand je dis du monde, c'est parce que toute ma vie, j'ai cherché, alors c'est ce qu'on dit, mais c'est ce que je ressens. J'ai essayé de rassembler, j'ai essayé de... Je ne suis jamais resté dans un seul et même monde. C'est une chose qu'on racontait d'ailleurs ce week-end avec mes amis. J'avais différentes bandes d'amis. D'univers très différents. J'aime mélanger les univers, j'aime mélanger les mondes, parce que je suis convaincu qu'on s'enrichit de la différence. C'est vraiment une conviction personnelle forte, d'univers différents, ça peut être de cultures différentes, bien évidemment, ne serait-ce que dans cette petite bande d'amis, il y avait, comme je l'ai dit, le fils de l'industriel qui était dans un certain confort financier et pas que. Mon ami, le fils du docteur, qui savait nous parler, qui savait montrer un chemin. Et d'autres gens, enfin voilà, c'est ce mélange. J'aime mélanger... mes relations, j'aime les rassembler, j'aime...
C'est ce qui t'a emmené aussi peut-être dans le domaine professionnel dans lequel tu œuvres, celui du recrutement, du...
C'est l'humain.
Ressources humaines.
Oui.
On l'a pas dit, mais tu rentres dans une PME spécialisée dans le recrutement qui s'appelle IFOPS. Ensuite, tu fais une petite partie commerciale chez Rank Xerox. Tu fondes ta première boîte qui s'appelle Sojedis Effectif que tu revends en 2006.
J'avais 24 ans quand j'ai créé cette entreprise avec deux amis. 24 ans.
C'est bien.
Alors, c'est bien, mais en réalité, parce que d'où je viens, en tout cas, je sais toujours où. À peu près, le chemin
donc,
est assez
7
simple.
Ans après avoir quitté la maison.
Alors, 7 ans après avoir quitté la maison, et pourtant, c'est cette année, il s'est passé beaucoup de choses, parce que quand je suis arrivé à Paris, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je suis directement rentré dans une troupe qui était au théâtre de l'Atelier, à Paris. J'ai été intégré là, mais je n'étais pas dans mon élément. J'arrivais de ma petite province, ce n'était pas facile. Et ensuite, j'ai rencontré, parce que je traînais bien sûr dans tout ce qui était théâtre, je traînais dans les endroits, j'avais besoin de rencontrer des gens, je connaissais personne. Voilà. Et j'allais dans les studios d'enregistrement pour essayer de rencontrer des gens. Voilà. Et on m'a fait rencontrer une personne qui était un comédien, mais qui avait été également directeur de théâtre et qui faisait travailler une dizaine de jeunes comédiens. Et on me l'a fait rencontrer, j'ai passé une audition que j'ai jamais oubliée, et puis il m'a gardé pendant quelques temps avec lui, comme pendant quelques temps. Mais en même temps, je travaillais et je faisais des missions alimentaires en intérim, je dis toujours le monde est un village et en même temps les choses sont tellement étonnantes. En tout cas, dans ma vie, il y a des choses qui pour moi sont étonnantes. Et j'ai travaillé là, mais sauf que il y a un moment, j'ai fait un choix, il y a eu certainement une angoisse, certainement une peur de ne pas y arriver, de rater ma vie, et donc je me suis effectivement plus orienté sur un métier.
Est-ce que tu es quelqu'un d'angoissé ?
Non. En tout cas, globalement, ça m'est arrivé certainement à certains moments, non, je suis, je crois, positif et constructif. En tout cas, c'est ce qu'on me reconnaît. Angoissé, non. Des moments de doute, bien sûr, toujours. Toujours, tant qu'on n'a pas décidé, faut douter. Mais c'est pas douter, c'est le questionnement. Mais le questionnement, c'est se reposer les questions. C'est une façon de vivre. C'est d'essayer de trouver le bon chemin. La vie est un chemin. Et donc, il faut se poser des questions. Les certitudes, c'est horrible.
Parce que le Dominique que je connais, c'est un Dominique optimiste,
oui.
Un Dominique de l'engagement. Si tu as un regard peut-être sur toute ta vie, est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui quel est le moment où tu as été le plus heureux ?
Il y en a plein.
Est-ce que c'est des éléments de sécurité intérieure ? Est-ce que c'est simplement des moments de bonheur éphémère, comme tu disais, le plaisir de se retrouver avec ses anciens amis ?
Non.
Ou est-ce que pour toi, justement, être heureux, ça veut dire quoi ? Et tu le relis à des expériences personnelles, professionnelles. Alors bien sûr, la facilité, ça va être de dire, il y en a plein. Mais pour toi, le bonheur, qu'est-ce que c'est finalement ? Être heureux, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça a pu être ?
Je crois qu'en premier lieu, être heureux, c'est être en harmonie avec soi-même. Alors, ça veut dire quoi être, pour moi, être en harmonie avec soi-même ? Ça veut dire, et donc j'ai plein de moments de bonheur, la rencontre avec mon épouse, mais c'est magique. Je m'en rappelle encore, les choses sont présentes, et ça fait plus de 40 ans. Mon mariage est magique, mes enfants, bien sûr, mais ça, j'ai envie de dire, c'est classique.
Mais c'est fort et c'est important,
mais
et c'est ta base.
Voilà. C'est ma base, c'est mon socle. Après, tu parlais de sécurité. La sécurité financière est importante. Quand on a connu les expulsions, les huissiers, il y avait toujours à manger. La fierté de mon père, avec son éducation, quand on a eu faim, c'était mes enfants ont toujours un toit et de quoi manger. Mais parfois, il fallait attendre qu'ils rentrent pour qu'il y ait à manger. Et donc, le frigo, il n'y avait pas toujours quelque chose dedans. Même si, parfois, il y avait de l'abondance. Parce que quand on peut, on en profite. Donc oui, une certaine sécurité financière, c'est important, mais en clair, c'est la vraie sécurité, c'est la sécurité affective. Et donc, c'est le socle, c'est sa famille, c'est en ce qui me concerne, mon épouse, mes enfants, mes amis. J'ai des amis depuis tellement d'années, ce sont les mêmes, je rencontre, je crois rencontrer beaucoup de monde. Je n'ai jamais oublié d'où je venais, je n'ai jamais oublié qui m'a aidé. Vous voyez, quand je le dis, ça peut paraître bête, j'en sais rien, mais c'est sincère. J'ai dit à un de mes amis ce week-end, c'est drôle qu'on se voit juste après ça, j'ai dit à un de mes amis ce week-end, je parlais de quelqu'un et j'ai dit, ben, toi tu es celui qui, parce que je n'avais pas d'argent, quand on partait tous en boîte de nuit, et que je ne pouvais pas y aller parce que je n'avais pas l'argent, tu me parlais pas, tu disais, viens, tu viens avec moi. C'est lui qui payait pour moi, j'ai jamais oublié, ça fait 50 ans. Ça fait 40 et quelques années. Je n'ai jamais oublié. Alors oui, ça l'a touché parce que je ne l'avais pas oublié, mais c'était normal. Voilà. Donc ce genre de choses, je les oublie pas. C'est voilà. J'ai besoin d'amour. Oui. Je pense qu'on peut pas vivre sans amour.
Tous ces sentiments que tu viens d'exprimer, ils reposent aussi sur forme de confiance. Et on se bâtit naturellement à travers la confiance que les autres t'accordent, que tu accordes aux autres. Mais pour toi, la confiance, c'est quoi? C'est la confiance en l'autre? C'est la confiance en ses propres capacités? C'est la confiance en la vie? Comment est-ce que aujourd'hui, toi, président de la CCI, avec effectivement une histoire personnelle extrêmement touchante que tu viens de nous confier.
Oui, mais il y a plein de gens qui ont des histoires comme ça.
Bien sûr, mais il n'y a pas plein de gens qui ont des histoires comme ça, qui sont présidents de la CCI et qui arrivent aujourd'hui à donner du temps aux autres comme tu en donnes et à créer quelque chose d'unique qui s'appelle Moufdi. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je pense que cette organisation qui est destinée à mentorer les jeunes, elle est née dans tout ce que tu viens d'exprimer jusqu'à présent.
Alors, merci de dire ça parce que quand j'ai un peu de temps, c'est ce que j'essaye de dire. Juste avant de répondre à cette question, si j'ai un peu de temps, j'arrive à Paris, je fais des petits jobs alimentaires, faut que je mange, et payer la petite chambre de bonne du 8e étage sans l'ascenseur. Mais c'était, j'étais heureux. Une réponse, voilà, quand ça me revient. 7 mètres carrés, on était deux. 7 mètres carrés. Mais j'étais heureux, j'avais des rêves plein la tête. La vie, c'est des projets. Ou les projets, c'est la vie. Et quand je suis heureux, c'est quand il y a des projets. J'aime les projets. C'est cette force qui m'anime. J'ai travaillé en intérim, travail temporaire. Un jour, parce que je faisais des petits jobs très basiques, j'ai posé la question à la responsable de l'agence où j'allais apporter, avec qui j'avais un contrat. Et comment dirais-je, et j'avais posé la question s'ils embauchaient. On m'a dit, non, parce que, oui, mais on prend que des gens qui ont fait des études et tout ça. Je suis rentré dans une agence en tant que consultant dans l'agence que tu as citée. Et 3 ans après, Xerox, et à peine 7 ans après, je crée ma propre entreprise de recrutement et d'intérim.
Qui a été rachetée et tu as recréé derrière.
J'en ai refait d'autres, voilà.
Tu en as refait d'autres.
Celle-ci s'est bien développée, voilà. Et puis après, j'étais déjà à la chambre. Mais quand j'ai créé ma société à l'âge de 24 ans, j'étais à l'époque, je sortais de chez Xerox. Et il y avait un sujet, c'était l'essaimage. À l'époque, dans les années 85, il y avait le sujet d'emploi et tout ça. Et Xerox essayait, comme certains grands groupes, de développer une politique d'essaimage, accompagner des collaborateurs qui voulaient créer ou reprendre des entreprises. Et je me suis préparé et j'ai été le premier chez Xerox en France à pouvoir, parce que je leur ai, entre guillemets, je vais le dire comme ça, apporté sur un plateau d'argent un dossier. C'était pas simple de mettre ça en place, mais moi, ça m'a beaucoup intéressé. Première société en France à être essaimée par Xerox. On m'a envoyé où? À l'Agence nationale pour la création d'entreprises qui accompagnait service de opérateur de l'État à la création de la reprise d'entreprise. Je rencontre celui qui s'occupe, la personne qui s'occupe de l'essaimage à l'époque, Loïc Danvers, 1985-86, m'a marqué, tu comprendras pourquoi, qui me reçoit avec un de mes associés et qui me dit, je rencontre 97% de rêveurs, vous faites partie des 3%, pourquoi l'essaimage avec Xerox? Donc, je vais expliquer tout ça, pas de problème. Un jour, on me confie une mission, j'ai déjà fondé le MOVJ, mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. Le gouvernement, le ministre de l'Industrie de l'époque, me confie la mission de percevoir les nouveaux contours d'une nouvelle agence pour la création d'entreprises en France. Je mène ces travaux, bénévolement bien sûr, mon engagement. Quelques mois plus tard, on me demande si ce que j'ai écrit, je peux le mettre en œuvre. Généralement, je me défausse pas. Si je l'écris, c'est que je le pense. Si je le pense, ben oui, je veux bien essayer de le mettre en œuvre. Je suis élu au conseil d'administration président de l'agence pour la création d'entreprises, de la PCE. J'ai envie de dire, j'ai poussé la première porte, c'était à la, enfin, en 85.
Comme on dit, tu as mis le pied dedans, tu as poussé avec 85, l'épaule et tu es rentré.
Et j'y reviens comme président. Dans cette maison, ici même.
À la CCI.
À la CCI. Avant d'être élu, quand j'avais 18 ans, ou quand je doutais à savoir si sur les planches j'allais réussir ou pas, et de faire des petits boulots, je me suis dit, je vais en parallèle essayer d'apprendre un métier. J'ai perçu les premiers contrats de professionnalisation d'apprentissage. J'avais 19 ans. J'ai passé un concours très simple pour les métiers de la représentation, représentant de commerce. C'était un dispositif organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris.
Et aujourd'hui, tu en es président.
J'ai été pris. Alors, il y a une centaine de candidats. J'ai eu la chance d'être pris dans les 10. Je ne suis pas rentré là parce que j'ai trouvé un job qui me formait tout de suite dans une société de travail temporaire, comme consultant. Au SMIC, là, de l'autre côté, c'était 75% du SMIC. Là, c'était, on me formait le SMIC et des commissions. Je suis devenu le président de la Chambre de commerce de Paris, ensuite de Paris-Île-de-France. Enfin, c'est assez fou.
Mais tout ça, Dominique, c'est les prémices de l'audace, c'est de l'audace, c'est les premières conditions
c'est
de l'audace.
La chance.
C'est-à-dire,
c'est de la chance.
Finalement, oui, mais c'est quand même l'audace. Est-ce que c'est avoir de l'expérience, c'est accroître sa compétence, c'est maîtriser sa zone de confort, c'est pour oser s'en sortir, c'est faire un pas de plus. Comment est-ce que tu entraînes finalement les plus jeunes en leur disant « allez-y, c'est le moment ».
En clair, parce que c'était une de tes premières questions. Qu'est-ce qui m'a amené à aller sur les planches? Qu'est-ce qui m'a amené à sortir? Qu'est-ce qui a fait que c'est « il fallait que je m'en sorte » Quand on n'a rien… Et quand on est dans une ville où il ne se passe rien,
oui,
tu marches ou tu crèves.
C'est un peu la phrase d'Alain, le secret de l'action, c'est de s'y mettre.
Oui, voilà. Et donc, je m'y suis mis. Et comme j'ai eu des exemples, mon père, d'essayer même dans une galère noire, tout le temps, on avance. Eh bien, j'ai juste fait ce que je voyais en permanence.
Qu'est-ce que tu dis à ceux qui ont le sentiment parfois d'avancer, de faire tout pour que les choses marchent et ils vont de galère en galère? Comment est-ce qu'ils prennent finalement à un moment donné le bon aiguillage de la réussite, de la tranquillité, de la sérénité?
Je ne sais pas si c'est la même chose, réussite, tranquillité, sérénité. Je pense qu'on peut avoir une sérénité dans son, la ressentir dans son corps. La sérénité, c'est où la... C'est pas que la réussite. C'est quoi la réussite? C'est la réussite financière? Je connais plein de gens qui sont richissimes.
C'est pour ça que je lis sérénité et réussite. Parce qu'on peut réussir en étant tout simplement serein, pas forcément richissime, pas forcément sur le devant de la scène, mais en étant, comme tu le disais tout à l'heure, aligné.
Oui, voilà. C'est ça pour moi la réussite. C'est d'être en harmonie avec soi-même. C'est de savoir, c'est de faire ce qu'on est. Ou en tout cas ce qu'on aimerait construire. Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi la vie c'est véritablement le chemin. On cherche à se connaître, on cherche à avancer. Je ne crois pas qu'on change à part quelques rares cas parce que des drames sont arrivés. Je pense, c'est ma théorie peut-être stupide, je pense qu'on ne quand je pense que on ne fait que ce qu'on est et on ne fait bien que ce qu'on aime bien faire. Je pense qu'on amplifie simplement ce qu'on est. Quand c'est un mauvais chemin, c'est souvent un mauvais chemin. Quand c'est un chemin qu'on essaye de construire, de se reposer des questions. Pourquoi se poser des questions? Parce que c'est se remettre en cause, mais se remettre en cause de manière honnête. C'est essayer de toujours cette recherche d'harmonie, d'être en paix avec soi-même, de ne pas faire les choses qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. C'est le respect de l'autre. Ma force, ma chance, c'est d'aimer l'autre. C'est une véritable chance. Celle-ci, je pense que mon père me l'a donnée.
Et c'est ce que tu as essayé de traduire dans Mouvji?
Dans le Mouvji, je n'ai fait qu'appliquer ce que je faisais depuis des années. Quand j'ai créé cette entreprise avec mes associés, j'avais 24 ans. Nous ne recrutions, on avait une centaine de collaborateurs. À 90%, nous avons recruté des collaborateurs qui sortaient de l'école. Bac plus 2. Que nous avons formé. Pourquoi? Parce que déjà, nous avons inventé un business model qui était différenciant.
En quoi il était différenciant?
Il était différenciant parce que dans une activité, il y a 35-40 ans, de société de travail temporaire, d'intérim, qui avait une très mauvaise image, nous nous sommes positionnés sur des marchés forts, spécialisés, diplômés, de bac à bac plus 2 dans les métiers au départ.
Vous avez fait ce qu'on appelle aujourd'hui finalement une innovation de rupture dans le métier,
oui,
des ressources humaines.
Oui, avec une culture d'entreprise. Et il me semblait, et je ne voulais pas, nous ne voulions pas aller chercher des gens qui avaient l'expérience de nos confrères, de nos concurrents, même des très 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 grandes entreprises, parce que dans ce cas-là, il faut défaire pour refaire. L'une des forces d'une entreprise, pour moi, c'est sa culture d'entreprise. Et c'est un des moteurs dans l'entreprise. Voilà, la culture, c'est l'identité, c'est pourquoi on y va, pourquoi on y va tous les jours. Je sais que parfois ça se perd, mais c'est la raison d'être dans une entreprise pour pouvoir avoir une raison d'agir.
Je rebondis là-dessus parce que c'est important. Là, tu parles de management.
Oui.
Tu parles de leadership.
Oui.
C'est pas forcément la même chose.
Non.
Comment est-ce que justement, et je reviens à Mouvji, quand tu as des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, tu leur fais bien comprendre que management, leadership, projet, sens finalement du projet, mais il faut savoir conduire tout cela en même temps.
Oui, oui, mais il faut savoir conduire. Alors, on n'a pas le droit d'apprendre. Enfin, si, on apprend à conduire avec un passager à côté.
C'est le mentor.
On apprend à conduire, voilà. Voilà. J'ai découvert le mentorat pour entrepreneurs en 2005 sur un déplacement au Québec. À l'époque, c'était la fondation, enfin, c'est toujours d'ailleurs la fondation de l'entrepreneurship du Québec qui est devenue, voilà, le réseau M, réseau Mentor, qui a été présidé à l'époque. C'est là où je l'ai rencontré par Régis Labeaume, qui est devenu, c'est un ami commun que nous avons.
Tout à fait.
Qui est devenu le maire de la ville de Québec pendant le 400e, juste avant le 400e de la ville de Québec. Donc, c'est le 400e anniversaire.
Quatre mandats avec le premier qui n'était pas très facile.
Pas facile.
Et réélu après avec des scores absolument fantastiques. Et c'est humainement, et tu l'as dit, quelqu'un d'extrêmement intéressant, riche.
Absolument.
Et s'il nous entend, on lui adresse toute notre amitié.
Bien sûr. Comment dirais-je? Et j'ai découvert le mentorat pour entrepreneurs, effectivement, que j'ai ramené en France. J'en ai fait d'abord, avant le Mouvji, l'Institut du mentorat entrepreneurial, pour cette maison. C'est l'idée que j'avais, mais pas d'accompagner, parce qu'en France, il y a tout un écosystème d'accompagnement, même il est encore plus important aujourd'hui, et tu connais ça par cœur également, mais on accompagne beaucoup les créateurs au départ. Ce que j'ai vu, c'était ce dont j'avais besoin à l'époque où en 2005, j'étais en train de vendre, au bout de 20 ans, on était en train de vendre ce groupe. Et je me suis posé la question à savoir si j'allais pas racheter mes associés, les parts de mes associés. Mais comme je ne sais rien faire réellement tout seul, j'ai certainement été inquiet. Et j'aurais aimé, nous avions des conseils, des coachs. On a même eu un gourou à un moment, très sympa d'ailleurs. Mais c'était pas ça que je cherchais. C'était pas quelqu'un qui allait me dire ce que je devais faire. C'est quelqu'un qui aller m'accompagner dans mon intérieur à moi. Le mentorat, c'est ça. C'est pas un coach. C'est différent. Avec les Québécois, on a beaucoup travaillé sur le sujet. Un mentor n'a aucune réponse. Il n'a que des questions. Il aide l'autre à se poser les bonnes questions. Il aide l'autre à ouvrir les champs du possible. Parce que on a tous des visières. Et ouvrir les champs du possible, il réconforte, il soutient. Mais il soutient l'autre dans sa position. J'aurais laissé personne me dire ce qu'il fallait que je fasse. Parce que le doute, je l'ai pour moi, mais je l'ai aussi pour les autres. De manière saine, bien évidemment. Mais un coach, un conseil, il est payé pour ça. Le mentor, il est totalement bénévole. Il n'a aucun intérêt autre que celui de son mentoré. Il n'est pas rémunéré. Il est totalement bénévole, je l'ai dit. Il n'a même pas le droit d'investir dans l'entreprise de son mentoré jusqu'à 2 ans après la fin du programme pour enlever toute ambiguïté. Il n'est pas du même secteur d'activité parce que, comme nos mentors sont tous en activité ou quasiment, il pourrait avoir un conflit d'intérêt.
Dominique, on peut prendre peut-être 3 exemples. Il y a Fagot, Easy Peasy et les cafés Marlette. 3 activités complètement différentes. La mode et les chaussures pour l'un, je crois les lunettes pour l'autre et la restauration pour le troisième.
Oui.
C'est pas par hasard que j'ai pris ces noms-là parce que...
Mais on peut y mettre l'économie d'énergie avec EBS Isolation, Perco avec les t-shirts.
Est-ce que tu peux...
D'ailleurs, Perco Strasbourg.
Très bien.
Viennent de Strasbourg.
C'est parfait. Mais est-ce que tu peux nous donner un exemple parmi ces noms-là pour que nos auditeurs comprennent bien comment ils ont été accompagnés par leur mentor?
En clair, donc j'ai fondé d'abord l'Institut du mentorat entrepreneurial pour les entreprises à fort potentiel de croissance. D'abord, donc des entreprises que je définis, fort potentiel de croissance, 97% des entreprises en France ont moins de 20 salariés. 97% moins de 20 salariés. Donc j'allais cibler les entreprises non pas en création, des entreprises qui avaient minimum 3 ans, qui avaient minimum 1 million d'euros de chiffre d'affaires et minimum 10 salariés, avec des vrais projets de développement. Parce que parfois, on fait 1 million, 1 million 2, puis on ne veut pas faire plus, et c'est très bien, bravo. Mais il y en a qui veulent développer. Et en France, nous n'avons pas, ça n'existait pas à l'époque, on ne les nommait pas comme ça, les ETI. Les Allemands avaient des entreprises plus fortes. Nous sommes les champions pour avoir un CAC 40, et c'est bien. Mais les entreprises de taille intermédiaire plus fortes, il en fallait davantage. Je suis parti du principe que pour faire grandir les entreprises, il fallait faire grandir les entrepreneurs. Et c'est ce mentorat pour entrepreneurs que j'ai découvert, que j'ai ramené d'abord positionné sur l'Institut du mentorat, que j'ai fondé, entreprise à fort potentiel de croissance. Avec la Chambre, c'est ce que j'ai proposé. Et ensuite, en 2011, j'ai fondé la structure nationale avec l'aide de la Caisse des dépôts et tout ça. Et d'autres sites en France. Le MOVJ, c'est ma conviction, je reviens à ce qu'on a dit. Toute ma vie, j'ai travaillé avec des jeunes gens qui sortaient de Bac plus 2, qu'on recrutait. La jeunesse est une force. J'ai écrit un jour, en 48 heures, tout le programme du MOVJ en 2009, avec Bénédicte Sanson, qui en est la déléguée générale et qui en est la cofondatrice avec moi. Elle m'accompagne depuis le début. On l'a construit ensemble. Eh bien, on l'a construit sur une base forte. La première ressource naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération. Et je n'ai pas inventé l'entrepreneuriat des jeunes, moi. Je l'ai juste soutenu, poussé, développé en faisant reconnaître qu'ils étaient là, qu'ils avaient peut-être 20 ans, 22 ans, 25 ans, moins de 30 ans, qu'ils avaient tenté, ils avaient créé une entreprise. Parce qu'on les prenait déjà quand ils avaient créé, à quelques semaines ou quelques mois, mais on les prenait entrepreneurs. Et pour les considérer, faire en sorte qu'ils aient ce regard, non pas « je vais aider le petit jeune ». Ce sont des entrepreneurs. Il faut les voir comme tels. C'est cette reconnaissance. Et donc, première ressource naturelle d'un pays, c'est sa jeune génération. Créer ou reprendre une entreprise, qu'on ait un CAP ou un Bac plus 5, toutes disciplines confondues. C'est possible. Il fallait juste convaincre tout à chacun. Le jeune, s'il a déjà à le soutenir. Les parents, parfois. Jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et nous avons été reçus avec le MOVJ et 12 jeunes entrepreneurs, certains dont tu viens de citer, par le président de la République de l'époque. Et ça s'est développé. L'accompagnement qu'ils ont eu, c'est un programme de mentorat que j'ai conçu avec les Québécois, mais focalisé sur les jeunes. Moi, j'ai pris le mentorat là, mais je l'ai focalisé tout d'abord pour les entreprises à fort potentiel de croissance. Et ça continue, et ça se développe. Et il y a des réussites formidables.
Quel est le regard que tu jettes aujourd'hui?
Je termine, pardonne-moi, Jean. Le MOVJ, c'est faire reconnaître cette jeunesse. Nous avons besoin de cette jeunesse.
Justement, on a besoin de cette jeunesse. Oui. Quel est le regard que tu jettes aujourd'hui sur ce qui s'est passé à l'été 2023, il y a quelque temps, de cette, finalement, révolte des quartiers et de la jeunesse de France?
Non. J'étais sur le terrain. À la chambre de commerce, on s'en est occupé. J'ai été constaté les dégâts. On a accompagné encore les commerçants et tout ça. D'accord, c'est un travail pour lequel on a été missionné.
Pour toi, c'est quel phénomène, ça?
En juin 2023, juste avant l'été, c'était pas les banlieues. C'était pas comme en 2005. Je suis allé sur les mêmes endroits qu'il y a eu en 2005. C'était quelque chose d'organisé à ce moment-là. C'était pas la même chose. C'était pas la révolte de la jeunesse. Non, j'y crois pas. J'y crois pas.
Ce en quoi tu crois, c'est la jeunesse tout court, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne.
Et dans les quartiers, il y a de la force énorme.
Quelles que soient ces initiatives.
Il y a de la force énorme dans les quartiers parce que ils ont ce que j'ai eu la chance. C'est un peu difficile de dire ça. Parfois, ils se retrouvent, faut sortir de là. Faut sortir de là. Il faut se sortir de là. C'est ce que je retrouve quand j'avais 17 ans. Ils l'ont, eux, peut-être plus exacerbé quand on est dans les quartiers. Mais il faut soutenir les quartiers. Il faut permettre. Je suis pour le mélange des genres. Je suis pour que on mixe les gens. Enfin, il y a pas les ghettos. Je veux dire, mais comment dirais-je? Partout, et il n'y a pas que les jeunes défavorisés qu'il faut soutenir. Il y a des gens qui ont certains soutiens, mais qui n'oseront pas, qui aimeraient bien aussi. Il faut aussi les soutenir. Donc la jeunesse, elle est globale. Elle est une et globale.
Tu as parlé de ton rôle de président de CCI sur le terrain. Tu as traversé aussi une période très particulière et difficile, c'est celle du Covid.
Comme tout le monde, aux
côtés des entreprises. Et j'aimerais te citer, si tu me le permets, une phrase de Sonia Mabrouk dans son dernier ouvrage, Reconquérir le sacré. Elle dit « Davantage qu'une perte de liberté, cette épidémie a révélé la perte de sens et donc de sacré qui nous frappe. Beaucoup ont dénoncé la psychose qui accompagnait les décisions prises autour du virus, ne décelant pas qu'en réalité, cette psychose prenait la forme et les couleurs d'une véritable dépression morale bien plus profonde. L'homme s'est retrouvé brutalement sans référence, sans repère, nu face à lui-même. Pire, il ne maîtrisait rien et ne comprenait plus ce qui lui arrivait. Nous avons ainsi pris douloureusement conscience du néant. » C'est des mots qui sont extrêmement forts. Tu as traversé des moments difficiles, j'ai traversé des moments difficiles dans nos responsabilités réciproques,
oui,
mais avec des décisions qu'il a fallu prendre à un moment donné pour nos populations, nos entreprises. Quel est ton vécu? Et est-ce que tu partages certains éléments de l'analyse de Sonia Mabrouk, qui fait un travail sur le sacré tout à fait intéressant dans son ouvrage, qui n'est pas simplement le sacré lié au religieux, qui est le sacré plutôt à cet alignement nécessaire que nous devons retrouver?
Comment je l'ai vécu? Comme tout le monde, comme toi. Tu étais très engagé également. Je t'ai beaucoup écouté dans tes fonctions, dans ton engagement, et je m'en rappelle encore. Pas au début, parce qu'au début, c'est tellement étonnant, c'est tellement un choc. Elle dit à un moment, on n'a pas de référence. Mais non, personne n'avait, on n'avait jamais vécu ça. Certains ont vécu, plus âgés, les guerres et tout ça. On a eu cette chance de ne pas les connaître encore. Enfin, en tout cas, en bas de chez nous. Mais c'était assez étonnant. Alors, comment on l'a vécu? Enfermé, j'ai respecté le code. Alors là, par contre, j'ai respecté le code. J'ai pas été prendre des apéros et tout ça, j'ai respecté le code. Avec mon épouse. Nos enfants étaient protégés, ça allait bien. Et on avait de la chance, dans une maison, avec un jardin, c'est une chance. Je me souviens de ma femme qui faisait les 100 pas tout autour du jardin pour pouvoir bouger. Je les ai passés, comme beaucoup, en tout cas dans la mission que j'avais, c'était 8h du matin, 9h du soir, non-stop, en visio, au téléphone. C'était abrutissant à soutenir les réunions avec les organisations, la préfecture, la ville de Paris, les associations de commerçants, les chefs d'entreprise, pour mettre en place les systèmes d'accompagnement pour les entreprises. Et en même temps, j'avais moi-même mon entreprise avec mes associés qu'on pilotait, pas la même, celle que j'avais vendue, mais d'autres que j'ai recréées par la suite. J'ai beaucoup entendu le avant et le après. j'étais pas certain du après. Pourtant, il y a un après Covid. Perte de sens. Je pense qu'on a un peu perdu le sens des choses à un moment. Mais sur un plan économique. Ensuite, comment je l'ai vécu? J'ai aimé le silence. Parce que c'était un moyen où je pense que chacun, on a peut-être pu, au début, peut-être, reprendre, et le mot a tellement été utilisé, aussi de comprendre l'essentiel.
Est-ce qu'aujourd'hui, justement, fort de cela, tu t'autorises plus de moments de silence?
Alors, j'aimerais m'autoriser plus de moments de silence. La vie, je l'ai choisie, hein, donc je ne vais pas la regretter, mais elle n'est pas simple tous les jours parce que c'est une activité assez dense, très dense.
Mais c'est passionnant ce que tu dis, Dominique, parce que après coup, dans tes responsabilités, tu fais attention au silence, tu es rattrapé par ton actualité et par ton activité.
Oui.
Et en même temps, 3 ans après, ce que tu te dis, oui, le Covid, il m'a touché.
Ah oui,
bah, il m'a touché dans
la planète entière.
Non, mais dans ce que je suis, et il a des répercussions sur ce que je suis en tant qu'homme.
Oui, bien sûr, tout peut s'écrouler. Cette prise de conscience que tout peut s'écrouler. Je viens de perdre un ami très proche qui était malade depuis de bonnes années, mais qui est parti en moins d'un mois. Et là, j'ai pas compris. Donc cette fragilité de la machine humaine, du corps humain, je crois que c'est la plus grande et la plus belle de toutes les machines qu'on a pu inventer, ou qui ont pu se créer, mais si fragile en même temps. Donc cette fragilité que nous avons, du respect de l'autre, tu connais tellement ce corps médical, je trouve qu'on a un peu vite oublié le tam-tam des casseroles. Quand même, parce qu'on passe toujours très vite à autre chose. Quand je dis on, je dis pas forcément je, mais je trouve que on a un petit peu vite oublié ce qui devenait fondamental à un moment. On l'a un peu mis de côté après, me semble-t-il. C'est un constat. Qu'est-ce que moi je fais pour améliorer ça? Peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, je me dis il y a un truc qui va pas bien quelque part. Bien sûr que le Covid a été bouleversant. C'est
Est-ce qu'il n'a pas mis en avant aussi un problème qui est celui de notre société, de nos sociétés, je ne dis pas de la France, mais entre la dignité et l'indignité? Aujourd'hui, nous sommes tous là pour lutter pour les dignités, et finalement, on a face à cela une forme d'indignité. Tu parles de l'hôpital. Aujourd'hui, le personnel soignant a le sentiment d'être indigne, d'exercer dans des conditions dignes pour les patients dont il s'occupe. Comment est-ce que la parole politique au sens noble du terme que tu peux avoir comme président de la CCI dans un pays comme le nôtre peut porter aujourd'hui et peut justement réaligner des faits de société où il y a peut-être nécessité d'avoir un meilleur contrat et constat social?
Oui, je pense qu'il doit y avoir un meilleur contrat, une meilleure prise en compte. En ce moment, je me bats pour la reconnaissance de notre pôle éducatif dans le domaine de la qualité de ce que nous faisons avec les résultats que nous avons, les résultats de la formation, de l'apprentissage et tout ça. Il y a les sujets, par exemple, de l'éducation, c'est de la jeunesse. Il y a les sujets du bien vivre, du mieux vivre, du mieux vivre âgé, du mieux mourir. Et ce ne sont pas des marchés. En tout cas, à mes yeux, ce ne sont pas des marchés de business. C'est autre chose. Je connais bien moins que toi le monde de la santé. Certainement que c'est financièrement très compliqué. Je ne pense pas que ce soit la faute de cela ou de cela. Je pense qu'il y a un mélange de beaucoup de choses. Je crois qu'on en prend conscience quand on est dans la situation et qu'on doit être dans le lit du patient. Là, à mon avis, les choses se bouleversent totalement et c'est dommage parce que c'est avant qu'il faut y penser. Il y a quelques semaines, très peu de temps, j'ai pu aller à minuit me recueillir auprès de mon ami, une très très belle personne. Très très belle personne. J'ai pu aller le voir quand je sortais d'un rendez-vous professionnel, c'était tard, mais donc j'arrivais à minuit. Il y avait encore des gens qui étaient là, qui travaillaient. Des infirmières, bien sûr, de garde. C'est un monde, les hôpitaux, que tu connais par cœur. Je crois qu'il y a quand on est dedans et quand on n'est pas dedans. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais bien sûr qu'il y a des soucis financiers, bien sûr qu'on a une dette, bien sûr que tout ça. Le Covid, ça a été aussi... Moi, je salue l'action du gouvernement de l'époque dans ce qu'il a fait. La sortie est difficile. Parce que pendant un moment, les uns et les autres ont pensé qu'on pouvait continuer à rester à la maison, aller faire certaines choses sans travailler. Ça, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. C'est bête et méchant, mais ça n'est pas possible. On me dit les jeunes veulent plus travailler. Je crois pas, c'est pas les jeunes qui veulent plus travailler. Moi, j'en vois plein qui bossent 14 heures par jour quand ils montent leur boîte. Les seniors veulent pas travailler, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a des choses à mettre en œuvre pour réconcilier les mondes, les âges. On ne se sert pas suffisamment de la forge de chacun des âges pour que chacun apporte à la communauté. Je rêve d'un monde où les seniors, comme on nous appelle, se sentent utiles.
C'est une angoisse pour toi, le temps et le temps qui passe.
Et quand même, il y a un chemin, on sait où on va quand même. C'est une angoisse. J'y pense, bien sûr que j'y pense. J'y pense. Mais avant cette angoisse-là, c'est comment on vit. Tu parles de dignité et d'indignité. Comment on vit et comment on s'occupe... Il y en a un qui a dit « nos vieux ». Ce que je souhaite à tout le monde de devenir. En meilleure santé.
Une belle chanson aussi.
Oui, absolument. J'ai envie de dire en bonne santé. Voilà. Mais chaque âge est utile. Ce qui, pour moi, est important, c'est que les gens essayent de se comprendre, essayent de s'aider, que chacun puisse apporter sa pierre. C'est ça qui m'intéresse. Enfin, en tout cas, c'est... Quel est mon moteur ? Celui d'apporter une pierre.
J'aimerais te citer, si tu me le permets, quelque chose que j'ai trouvé très beau et qu'on a pu entendre dans la grande librairie, c'est la conclusion de Maria Pourchet, où elle dit, je la cite en partie, « Simplifier, c'est réduire. Trancher dans le réel, c'est le mutiler. Nous, avec. Et cette part que, dans l'impatience d'arbitrer, nous pourrions abandonner, c'est la plus riche, sûrement la plus libre. C'est la nuance, faite d'hypothèses, de temps et de questions. La nuance est une lampe, elle laisse apparaître le tracé singulier de nos routes, nos raisons profondes, les cohérences soudaines entre les camps, de chatoyants revers de médailles, les rires et d'infinis dégradés dans les vérités, les couleurs inouïes auxquelles il faut encore chercher des noms, la pensée en somme, et naturellement infinie, la littérature. Par rapport à tout ce que tu dis, cette notion de nuance, de temps qui passe, de rapidité, de nécessité d'agir, d'action pour les jeunes. Qu'est-ce que ces lignes peuvent te procurer ?
La nuance. Nuancer ses propos, nuancer ses choses. Nuancer ses propos, ça ne veut pas dire ne pas dire ce qu'on pense. Ou parfois, il faut savoir ne pas dire ce qu'on pense. Je dis en plaisantant, mais je crois que c'est vrai. Je n'aime pas mentir, je ne mens pas. Par contre, je ne pense pas que toute vérité soit bonne à dire. Ça, elle peut blesser. Elle peut aider, mais il faut la différence entre je blesse ou j'aide. La nuance, c'est l'amour propre. C'est le respect de l'autre. C'est, avant d'aller juger l'autre, c'est de se regarder soi-même. J'ai parlé au début de notre conversation du chemin. Pour moi, c'est le vrai chemin. Celui de la nuance, d'essayer de se connaître soi-même. Et quand on travaille à essayer de se connaître soi-même, on arrive forcément à la nuance, parce qu'on est toujours beaucoup plus indulgent avec soi-même. La nuance, c'est, à mes yeux, si c'est bien ta question, c'est essayer de comprendre qui est l'autre. Mon épouse a longtemps dit que je ne jugeais pas. Ça me touchait beaucoup quand elle disait ça. J'essaye de comprendre pourquoi l'autre, avec un grand A, fait ceci, pense cela, dit ceci ou cela. J'essaye de savoir quel est son prisme pour essayer de mieux comprendre. J'ai dit tout à l'heure, on s'enrichit de la différence. Alors il y a les différences que je n'apprécie pas du tout. Hein, je veux pas épiloguer sur le sujet. Voilà, il y a des extrêmes, tout ça, c'est pas mon chemin. Mais d'essayer de comprendre qui est l'autre, ça permet tout d'abord je pense une question que tu m'as pas posée. Souvent j'entends, c'est l'argent qui fait le monde. Je ne crois pas. Ma conviction, c'est que c'est la peur qui fait le monde, qui fait tourner le monde. La peur. La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être reconnu, la peur de pas avoir ceci, de ne pas être compris, la peur de perdre, la peur de cette peur. Et par rapport à la peur, il y a ce qu'on fait et la conscience qu'on a de ce qu'on fait.
Et comme tu penses à demain, justement, qu'est-ce que tu vois?
Je ne sais pas, parce que demain, il est à construire. Et ça a été mon moteur toute la vie. Parfois un peu trop. Justement, par rapport au Covid, peut-être qu'il y a des pensées, c'était de saisir l'instant, saisir le moment, maintenant. Ce qui est peut-être pas toujours mon fort. Quand on est comme moi et qu'on pense que la vie, c'est des projets, ou les projets, c'est la vie, on est toujours en train de construire des projets. On essaye de les mener, je les mène, les projets. Parfois, il y en a qui s'arrêtent parce que on réussit pas tout, bien évidemment. Donc, je ne sais pas ce que va être demain. Je ne sais pas si nous serons là la semaine prochaine, pas moi. Je vais parler pour moi, c'est plus simple. J'espère, bien évidemment. Oui, le Covid m'a fait prendre conscience, avec mon épouse, que il faut aussi savoir s'arrêter pour prendre le temps.
Merci Dominique pour ces moments, je crois, intenses.
En tout cas pour moi.
Surtout chargés d'émotions. Si nos auditeurs ont envie de te joindre, et est-ce qu'ils peuvent le faire sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu réponds? Est-ce que tu privilégies certains
Les mails,
plus particuliers que d'autres?
Plus simple, parce que je passe des journées parfois où je peux même pas toucher à mes mails, donc je les vois après. Voilà, un courriel, je vais dire, tiens. En québécois, un courriel.
Un courriel, donc voilà. On pourra mettre ton adresse.
Bien sûr, bien sûr.
En référence sur le site et sur les réseaux.
Bien sûr.
Mais en tout cas, merci pour cette vraie rencontre. Je crois que
c'est moi qui te remercie.
Tu as parlé de choses essentielles aujourd'hui.
Essentielles, je sais pas.
Et je crois que nos auditeurs ont été touchés par ces moments de vérité. Merci Dominique.
Merci beaucoup, Jean.
Cet épisode vous a plu, merci beaucoup. N'hésitez donc pas à le partager, à en parler autour de vous. Merci également de noter 5 étoiles. Vous pouvez réagir directement également sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou Facebook, et sur mon site internet jeanrotner.com. À très bientôt.